Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
En France, un tiers des couples auraient connu l'épreuve de l'infidélité, une réalité aujourd'hui largement vendue comme une simple aventure quand elle est la plupart du temps un grand drame pour les personnes et les familles. Un drame qui ne serait cependant pas forcément synonyme de rupture, au dire de mon invité de ce matin, conseillère conjugale, sexologue, auteur d'un ouvrage remarqué pour comprendre et sortir de telles crises. Explication. Marie-Aude Binet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes alors conseillère conjugale, sexologue, formatrice en développement personnel et conférencière. Et en plus de tout ça, vous êtes l'auteur donc d'un livre paru aux éditions Odile Jacob, Infidélité et crise conjugale, comprendre et sortir de la crise, livre qui est sorti au printemps dernier, c'est ça ?
Oui.
Voilà. Alors on se paye le luxe d'avoir un petit peu de décalage. On a laissé la primeur à la grande presse nationale, puisque vous me disiez, on prépare l'émission, que vous êtes passé dans Elle, Femina, RTL, France Bleu National, RTBF, RFI, etc. Bref, un beau succès. Pour un sujet difficile. Peut-être ma première question, ça serait ça. Il y a beaucoup de livres sur l'infidélité et sur surtout la manière d'arriver à dépasser cette crise aujourd'hui en
Alors,
librairie.
Il y a déjà eu beaucoup d'auteurs, hein, bien sûr, qui ont écrit sur ce sujet qui, depuis des siècles, en fait, anime, je dirais, la société, hein, et les discussions dans les foyers. Après, j'ai pris le parti de faire un livre qui pouvait en même temps être un livre de prévention pour les couples, de manière à prévenir des couples, les crises dans les couples et l'infidélité, et qui pouvait aussi permettre de comprendre ce qui peut se passer, ce qui peut amener à ce passage à l'acte, et ensuite comment aussi accompagner les couples ou les personnes à pouvoir se reconstruire personnellement et en couple après une telle épreuve.
Voilà, c'était un peu aussi le sens de ma question. Est-ce qu'aujourd'hui les livres sur l'infidélité incitent à la reconstruction ou pas ou...
Oui, alors bien sûr, comme dans tout sujet, il y a plusieurs courants de pensée. En tout cas, dans le monde des thérapeutes, on est plutôt à dire que l'infidélité n'est pas le moyen idéal pour permettre à un couple d'assurer sa survie.
C'est-à-dire ?
Ben, c'est-à-dire qu'il y a quand même la plupart du temps, à partir du moment où dans un couple, le contrat c'est l'exclusivité amoureuse et sexuelle, l'infidélité viendra toujours créer une souffrance.
Voilà, vous voulez dire que c'est plutôt, ça reste malgré tout à éviter, c'est ça que vous voulez dire ?
Tout à fait.
Voilà, alors juste avant qu'on parle un peu plus du sujet, moi je suis tombé, je ne sais pas si justement c'est très représentatif de ce qui est dit aujourd'hui sur ce sujet, mais sur une certaine Esther Perel, qui semble-t-il est plébiscitée outre-Atlantique. C'est un article qui est paru dans la presse féminine. Alors elle, son dernier livre, ça serait « L'intelligence érotique, faire revivre le désir dans le couple » et, je ne retrouve plus le nom, « Repenser l'infidélité ». Voilà, et il paraît qu'elle fait un tabac aux États-Unis. Son idée, c'est qu'on peut tromper sa moitié sans être malheureux pour se sentir vivant.
Oui, alors...
C'est un épiphénomène ou c'est les choses qu'on entend
Alors, c'est pas un épiphénomène. En tout cas, c'est beaucoup ce qu'on entend dans les médias.
Excusez-moi, conférence TED, repenser l'infidélité, 9 millions de vues.
Oui, oui, oui. Mais j'en ai bien sûr entendu parler. En fait, c'est un courant d'un peu de pensée, de dire, ben voilà, ça va mal dans votre couple, allez vous amuser ailleurs, ça vous donnera une bouffée d'oxygène, et quand vous allez revenir dans votre couple, ça se passera, ce sera d'autant plus agréable. Alors, c'est pas entièrement faux à 100%, c'est-à-dire que quelquefois, l'infidélité peut permettre de redonner un élan de vie au couple, pour autant que les deux vont s'en saisir pour reconstruire derrière. Mais ça, on peut jamais le savoir à l'avance. Donc c'est une prise de risque énorme.
C'est une crise qui peut être qui est surmontable. Mais
c'est surmontable.
Sur les chiffres, c'est pas une émission de sociologie, mais malgré tout, moi je citais donc un tiers des couples en France qui auraient connu l'infidélité. Je suis tombé aussi sur ce sondage IFOP, mais commandé par Glidden. Quand on connaît Glidden et ses campagnes, puisque Glidden, c'est donc ce site qui se réclame être le premier site extra-conjugal fait pour les femmes, avec des titres accrocheurs comme « Contrairement à l'antidépresseur, l'amant ne coûte rien à la sécu ». Bref, on va pas leur faire plus de pubs que ça, mais eux, ils disent « c'est un couple sur deux ». Qu'est-ce que vous diriez, vous ? Qu'est-ce que vous avez lu sur ce sujet ?
Oui, et la dernière enquête de l'IFOP, qui est de janvier dernier, pour un second site qui s'appelle Delove, qui est consacré à l'infidélité féminine, hein, qui est tout nouveau, confirme la même chose. C'est 39% des femmes et 49% des hommes qui auraient déjà vécu une infidélité.
Mais alors, qu'est-ce qu'on entend par infidélité ? C'est-à-dire, ça veut dire quoi ? C'est
alors, l'infidélité,
c'est tromper en acte son conjoint ?
Elle n'est pas que sexuelle. L'infidélité peut avoir d'autres formes. Alors d'abord, elle est dans un couple institutionnalisé ou pas. Hein. Le fait, c'est d'abord d'être en couple. Ensuite, c'est le fait on peut tromper psychologiquement par des pensées, par un désir d'aller vers l'extérieur sans forcément passer à l'acte. On peut tromper par un échange de SMS qui vont être plus ou moins affectifs, plus ou moins érotiques. Et on peut tromper, bien sûr, jusqu'au passage à l'acte sexuel.
Alors, ça, c'est le fait de société. Dans le fait de société, il y a aussi une forme de paradoxe français, puisque on ne cesse de lire des sondages qui disent que, y compris chez les jeunes, en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup d'attentes quant à la famille et quant au couple, et peut-être davantage un désir de fidélité. En tout cas, dans les quelques sondages que j'ai pu parcourir, c'est ce qui ressort, en tout cas, chez les plus jeunes. Alors, est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a un paradoxe français, ou est-ce que c'est propre à tous les pays de désirer avoir un couple stable en fait sur la longueur et en même temps d'être confronté à tant de désirs ou de tentations ou de chemins de traverse.
Alors le désir de créer une famille et d'être stable dans son couple, il existe chez les jeunes en effet aujourd'hui toujours comme autrefois. La différence c'est que la façon de préparer sa vie de couple est beaucoup plus difficile aujourd'hui à vivre puisque les couples se mettent ensemble très tôt, hein, dès l'âge de 18 ans et quelquefois il y a déjà eu beaucoup de ruptures. Et il peut y avoir des infidélités dès l'adolescence ou dans le jeune âge adulte. Et ce qui fait que envisager une vie de couple stable dans ces conditions-là, c'est plus compliqué.
Ensuite, vous voulez dire que d'avoir pris de l'habitude, en fait, d'avoir des relations amoureuses successives, ça peut donner l'habitude d'une certaine forme d'infidélité ?
Ça ne donne pas l'habitude d'une certaine forme d'infidélité, mais ça multiplie les occasions d'avoir vécu l'infidélité. Voilà. Et donc ça, je le constate beaucoup chez des couples qui ont 30 ans et qui ont déjà vécu, en fait, entre 18 et 25 ans, une infidélité lors d'une relation qui avait duré 2-3 ans. Voilà. Mais en tout cas, qui était lorsqu'ils étaient assez jeunes.
On arrive dans une vie de couple, entre guillemets, mature, avec des expériences d'infidélité.
Exactement.
Voilà.
Donc ça crée quand même une méfiance, ça crée des blessures et qui ne sont pas toujours faciles à gérer lorsque l'on désire avoir une vie de couple stable. Ça, c'est une première situation. L'autre situation, c'est finalement de commencer une vie de couple avec une certaine naïveté et d'être persuadé, puisqu'on s'aime, tout ira bien. Et l'infidélité, elle arrive quand même essentiellement souvent au bout de 15 ans de vie commune, entre 15 et 20 ans de vie commune, au moment où les efforts se relâchent et où on a la sensation que la routine, tout s'est bien installé, la vie de famille roule. Et en fait, c'est dans ces moments-là, justement, que l'infidélité survient.
Alors, je ne cesse de faire des introductions, mais malgré tout, je trouve qu'il y a quand même un certain nombre de préambules avant de parler de ce sujet. Dans votre préface, vous commencez même en introduction du livre, par une citation de Khalil Gibran, citation du livre Le Prophète. Alors, je ne vais pas la lire en intégralité. En tout cas, ça commence comme si « Aimez-vous l'un l'autre, mais ne faites pas de l'amour une entrave, qu'il soit plutôt une mer mouvante entre les rivages de vos âmes, et à la fin... Et tenez-vous ensemble, mais pas trop proches non plus, car les piliers du temple s'érigent à distance et le chêne et le cyprès ne croissent pas à l'ombre l'un de l'autre. » Pourquoi vous avez choisi cette citation ?
Parce que...
Et surtout sa chute. Je pense que c'est en partie pour la chute, donc vous l'avez choisi.
Oui, parce qu'en fait, l'infidélité peut venir témoigner justement d'un étouffement dans la vie conjugale. Et d'une difficulté à être à juste distance l'un avec l'autre, à accepter cette juste distance. Et l'infidélité peut avoir souvent comme cause une difficulté à être dans une autonomie affective. Donc apprendre de savoir s'aimer soi-même et d'aimer l'autre, de se laisser aimer. Vraiment, quand je dis cette juste distance, elle est vraiment importante parce que soit c'est trop fusionnel, soit c'est trop distant. Et l'infidélité, en fait, va s'immiscer là-dedans.
On en reviendra, hein, parce que je pense que c'est quand même c'est un sujet très important. Dans le jargon, on appelle ça la chasteté, en fait, dans la relation.
Hein, mais
qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui ? Est-ce que les couples sont particulièrement confrontés à certains défis qui fait qu'aussi ça les fragilise ? Je citais tout à l'heure Glidden, voilà, qui n'est pas tombé en tout cas sur les affiches de ce site et parfois a été choqué. Il faut quand même espérer qu'il y en a encore qui le sont. Et c'est vrai que quand on en parle parfois avec nos anciens, avec nos grands-parents, comme disent les jeunes, ils hallucinent qu'il y ait de tels sites dont on fasse la publicité. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui le couple est plus exposé ? Et s'il est plus exposé, qu'est-ce que ça veut dire ? Quelle est votre expérience ?
Alors le couple est plus exposés, ça oui, avec beaucoup de sollicitations. Alors, outre, bien sûr, il y a 2000 sites internet de rencontres, hein, donc on a de quoi, on a du choix. Qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, quel que soit son âge, il faut savoir quand même que la plus grande partie des infidélités sont après 55 ans. Donc ça touche vraiment toutes les tranches d'âge. Ensuite,
elles sont en grande partie via ces sites de rencontres ou pas du tout ?
Alors, beaucoup. Beaucoup via les sites de rencontres, parce que grâce justement à aux smartphones, aux tablettes, aux ordinateurs, on peut quand même créer ses comptes en cachette de son conjoint très très facilement, les consulter grâce aux applications, etc. Donc l'accès est facilité, ça c'est sûr. Ensuite, il y a quand même les médias, alors d'une manière générale, hein, c'est pas forcément une critique acerbe vis-à-vis des médias, mais c'est ce qui est dit, c'est que bah voilà, vous pouvez avoir un petit plaisir à un moment donné, il n'y a pas de conséquences, il n'y a pas d'impact, profitez-en. Écoutez, messieurs, votre femme est partie pendant un mois en vacances avec les enfants, vous vous sentez seule, on le comprend, voilà. Mesdames, vous en avez assez de votre conjoint qui ne vous écoute pas, eh bien, il y a des hommes qui sont beaucoup mieux que lui, etc.
C'est ce qu'on lit parfois dans la presse féminine, en tout cas.
Exactement. Donc, il y a un encouragement en disant, il n'y a pas de conséquences à vous faire du bien, allez-y, profitez-en, etc. Donc oui, il y a une espèce d'illusion et un encouragement à ce plaisir qui est spontané et malheureusement, hein, moi je l'entends dans mon cabinet, je ne voulais pas lui faire du mal, mais malheureusement c'est la conséquence souvent derrière.
L'autre chose aussi, c'est que vous commencez ça cette fois, c'est la première phase de votre introduction. Invention récente, le mariage d'amour est devenu la norme dans les sociétés occidentales. Ça, quand on a fait un tout petit peu d'histoire, c'est important de recontextualiser. On dit que le mariage d'amour, en fait, c'est comme le triomphe d'une christianisation de l'amour, et ça daterait en fait du milieu du 19e siècle, les premiers mariages d'amour. Donc c'est-à-dire qu'on a aussi un rapport, en fait, une attente en tout cas, à l'égard du mariage, et des possibilités qui ne sont plus du tout les mêmes qu'avant, non ?
Exactement, plus du tout les mêmes, et qui crée quelque part une idéalisation qui est beaucoup trop importante. D'où la chute quelquefois à travers l'infidélité. Et c'est vrai que bah, je t'aime moins ou je t'aime plus. Qu'est-ce que je fais encore avec toi ? Pourquoi je resterai avec toi ? Voilà, il y a un peu cette attente que l'autre va tout combler ou que soit on doit tout combler chez l'autre. Et ça, c'est vrai que c'est pas ajusté par rapport à la réalité d'une vie de couple qui se construit au quotidien. Et en plus, sachant qu'aujourd'hui, on est appelé à vivre très longtemps, donc à vivre ensemble peut-être 50 à 60 ans, ce qui n'était pas le cas au 19e siècle. La durée de vie d'un couple, c'était maximum 20 ans. Donc aujourd'hui, la donne a changé et se dire, bon, comment on va faire pour durer autant de temps ensemble, ce qui fait qu'il y a des crises conjugales qui n'existaient pas avant et qui arrivent, je vous le dis, hein, autour de 15-20 ans de vie commune, voire à nouveau à la retraite.
Avant, votre conjoint mourait et maintenant, il faut continuer à vivre avec lui, c'est
exactement, ça ? Exactement. Et puis ça arrive au moment de la crise de la quarantaine ou de la cinquantaine, ça arrive au moment où les enfants partent. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se mélangent. Et je vous dis, et après, la crise suivante, elle est au moment de la prise de la retraite.
Alors, parmi les facteurs déclencheurs, vous en citez une multitude dans votre ouvrage. Qu'est-ce que vous diriez ? Vous diriez quels sont les principaux facteurs déclencheurs ? Vous en avez déjà donné un, c'est de dire qu'il peut y avoir une forme d'immaturité affective chez l'un ou chez l'autre. Et en même temps, j'ai envie de vous dire qui est pleinement mature, en fait. Est-ce que c'est pas aussi l'amour qui rend mature quelque part ou qui,
oui,
qui fait grandir, qui guérit, qui...
Oui, c'est la construction personnelle et ensemble dans le couple qui permettent d'acquérir cette maturité, et c'est jamais fini, hein. On a toujours besoin de prendre du temps pour soi, pour bien s'aimer, s'estimer et puis accueillir l'autre au mieux. Mais quand même, il y a une difficulté aujourd'hui à se retrouver seul, à savoir être seul et à vraiment s'aimer avec, tel que l'on est. Donc on attend beaucoup trop de l'autre. Donc ça, c'est quand même une difficulté avec un désir fusionnel qui peut durer très longtemps dans le couple.
Qu'est-ce que ça donne parmi les gens, évidemment, vous n'avez pas donné de nom, mais si vous avez des situations ou des visages qui vous reviennent en tête, ça donnerait quoi ?
Alors ça va donner un étouffement, en fait. Hein. Il y en a un des deux qui va dire, mais en fait, moi j'en peux plus, il faut tout le temps que je sois avec toi, il faut que je fasse tout, mais tu me regardes plus comme une femme, par exemple, des femmes, hein, qui vont avoir la sensation de devoir répondre un peu comme une mère à tout ce que leur conjoint désire, et qui ne se sentent plus écoutées en tant que femme, qui ne se sentent plus regardées, désirées en tant que femme, et qui donc vont aller ailleurs, en fait. Et là, elles sont quelquefois face à des conjoints qui, en effet, n'ont pas cette maturité affective et qui demandent à leur femme d'être un peu une mère qui vient tout combler. Voilà.
Ça arrive.
Ça arrive, et plus qu'on ne croit. Voilà, mais bon, ça peut être d'autres manifestations, hein. Ça peut être une jalousie excessive, ça peut être une difficulté aussi à être seule. Voilà. J'ai envie de partir seule pendant 3 jours et la conjointe dit non, il en est hors de question, tu me laisseras jamais seule, etc. Donc il y a un étouffement qui se crée et qui fait que bah, y a besoin d'oxygène et l'oxygène il se trouve dans l'infidélité.
Qu'est-ce que vous citeriez d'autres comme principaux facteurs?
Alors il peut y avoir la place des enfants qui est trop importante et le couple qui est relégué à la seconde voire la troisième place après les enfants et le travail, et du coup il y en a un des deux qui va finir par se lasser de cette vie de couple qui est inintéressante, qui va avoir besoin d'un peu plus de fun, hein, de réveiller sa libido, réveiller son désir de sortie, son désir de faire du sport, etc. et qui va trouver ça auprès de quelqu'un d'autre, soit un collègue de travail, soit un ami, soit une personne qu'il va rencontrer comme ça à l'occasion. Il peut y avoir des addictions quelquefois. Alors il y a l'addiction à la pornographie, hein, bien sûr, à laquelle on peut penser très vite,
mais ça peut être et qui est plus répandu qu'on ne croit.
Exactement, qui est très très répandu, bon, essentiellement chez les hommes bien sûr, mais voilà, qui commence à toucher certaines femmes. Et ensuite il peut y avoir une crise personnelle, donc là c'est pas forcément le couple qui est en cause, la relation de couple, mais la personne qui est en remise en cause personnelle de manière très forte et qui en est au point de quelquefois vouloir tout balancer, le conjoint, le travail, les enfants. Et une rencontre va quelquefois être le déclencheur de cette crise qui devait arriver, hein. Simplement, c'est l'infidélité qui va déclencher.
Alors, on ne va pas faire toute une émission sur les causes, mais il y a une dernière chose que je voulais voir avec vous. Vous parlez de 3 grandes crises à l'approche de la quarantaine et de la cinquantaine. Le syndrome du nid vide. La deuxième, c'est l'impression d'avoir atteint son sommet, et donc en fait peut-être aussi d'avoir conscience qu'on est mortel aussi. Hein. Et ensuite, c'est l'heure de la vérité, c'est-à-dire le face-à-face avec soi-même. Vous remarquez, c'est ce que vous disiez, hein, 15-20 ans, que c'est vraiment un moment d'ébranlement important.
Oui. Alors, le phénomène du nid vide va toucher maintenant les couples plus vers la cinquantaine, hein, puisqu'on se marie beaucoup plus tard et qu'on a les enfants plus tard. Ce qui arrive au moment de la ménopause chez la femme, donc une perturbation dans sa sexualité, dans sa vision aussi de sa féminité. Et puis, chez les hommes, y a des troubles de la sexualité qui peuvent arriver, hein, troubles de l'érection, etc. Donc, ça vient aussi remettre en cause un petit peu. Et puis après, il va y avoir, oui, cette... voilà, j'ai 40, 45 ans. Dans le monde du travail, je suis déjà un senior. Pourtant, je me sens plein dans mon potentiel, dans mes compétences. Et ça peut être l'occasion pour certains de faire une reconversion professionnelle. Et puis après, il va y avoir l'heure de la vérité. Ben, oui, je vieillis. Qu'est-ce que je veux pour ma vieillesse? Est-ce que ce conjoint avec lequel je suis, c'est vraiment avec lui que je veux vieillir? Est-ce que c'est comme ça que je veux vieillir?
Est-ce que je suis pas passé à côté de ma vie?
Exactement. Que...
Ouais. Voilà. Pour finir, on va faire une première pause musicale et puis après on va parler de la manière de traverser une telle crise. Qu'est-ce que vous diriez? Vous diriez en fait c'est toujours un grand drame, enfin une très grande douleur quand il y a infidélité dans un couple.
Parce que c'est
rarement vendu comme ça.
C'est pas forcément un grand drame, mais en tout cas c'est sûr qu'il y a une souffrance. Après je ferai une différence entre une aventure d'un soir et une aventure extra-conjugale qui dure depuis plusieurs mois.
D'accord, mais qu'est-ce que vous voulez dire par grand drame ou souffrance? Ça veut dire quoi?
C'est-à-dire que le grand drame, ce serait « c'est fini, je ne veux plus être avec toi », c'est radical, voilà. Et la souffrance, c'est « oui, je souffre, la blessure, elle est là, elle est béante ». Il y a quand même un espoir de reconstruction derrière.
Voilà, donc on va parler de cet espoir. Je rappelle le titre de votre ouvrage « Infidélité et crise conjugale, comprendre et sortir de la crise » aux éditions Odile Jacob.
Thank you.
Emmanuel Pella.
Un vivant église ce matin donc sur un sujet délicat, donc le sujet de l'infidélité en couple avec Marie-Aude Binet, auteur d'un ouvrage paru aux éditions Odile Jacob, Infidélité et crise conjugale, comprendre et sortir de la crise. Je dirais en préambule de cette, j'arrête pas de faire des préambules aujourd'hui, mais en préambule de cette deuxième partie, c'est que vous commencez quand même tout votre ouvrage, et vous l'avez dit au début de cette émission, c'est aussi un livre de prévention, par dire en fait ce qui fonde et ce qui nourrit un couple. Voilà, il faut quand même le saluer, vous ne rentrez pas tout de suite dans les sujets les plus durs. Toujours est-il que il y aurait donc maintenant un couple sur deux qui serait dans sa vie confronté à une forme d'infidélité, puisque vous disiez qu'il faut comprendre de manière très large ce sujet. En tout cas, ça prouve que tout le monde peut un jour être exposé à ce type de difficultés et que le mieux pour s'en prémunir est et d'y réfléchir, peut-être. Quand c'est arrivé, vous dites, en fait, il faut faire la vérité. Alors, on imagine qu'en général, ça se passe jamais selon une certaine méthodologie, et il n'y a pas trop de méthodologie en la matière, mais... Ça veut dire quoi, faire la vérité, en fait? Ça veut dire qu'il vaut mieux en parler. On peut entendre parfois qu'il vaut mieux parfois savoir garder certaines choses pour soi.
Oui, quelquefois, il vaut mieux savoir se taire.
Je ne sais pas si c'est très catholique de dire ça sur cette antenne. Je vais peut-être me faire enguirlander.
Non, je peux vous dire que même des... Voilà, j'en ai discuté avec des prêtres qui sont d'accord avec moi. Lorsque c'est juste une fois que ça s'est passé, ce n'est pas la peine d'aller perturber entièrement la relation conjugale avec ça. Par contre, la personne qui a posé cet acte peut très bien réfléchir elle-même qu'est-ce qui fait qu'elle a eu besoin ou qu'elle a eu envie de le poser. Donc ça, c'est un travail personnel qu'elle peut le faire pour elle-même et voir un petit peu comment elle va pouvoir se repositionner par rapport à sa vie de couple. Donc ça a besoin souvent d'être accompagné. Voilà. Par contre, lorsqu'il y a une répétition,
ce qui veut pas dire que quand ça n'est arrivé qu'une fois, il n'y a pas certaines circonstances où il faut en parler.
Ah mais alors ça peut être, ça dépend. Alors après, il y a quand même des personnes qui se débrouillent pour faire des actes manqués. Hein. Donc il va y avoir quelque chose qui est une trace qui est laissée, qui fait que le conjoint va s'en apercevoir. Voilà. Après. Quelquefois, en tout cas, moi je dis, c'est pas la peine non plus de le révéler 20 ans après, ça vient faire du mal à une période où ça n'est pas nécessaire. Voilà. Par contre, lorsque l'acte se répète, lorsqu'il y a un désir d'aller voir ailleurs, c'est-à-dire, là j'ai eu le cas une fois dans mon cabinet, un homme qui m'a dit l'année dernière, j'ai eu un désir pour ma collègue. J'ai senti que c'était quand même pas à sa place. J'en ai tout de suite parlé à ma conjointe en disant, écoute, là, je suis en train de partir du couple, quoi. Donc, il faut qu'on fasse quelque chose. Et sa femme a très, très bien réagi. Donc, il a pas été jusqu'à poser l'acte. Mais voilà, il avait commencé à avoir un pas en dehors de son couple. Donc, après, c'est si ça s'est répété ou si ça s'installe. Là, il y a un moment donné, oui, il y a quelque chose à partager en couple. Alors, rarement, le conjoint va voir sa femme ou son mari en disant « voilà, je te trompe ». Non, ça, c'est pas possible. Mais il y a souvent, soit une lettre anonyme, c'est arrivé, que des personnes soient au courant par d'autres moyens, soit c'est le conjoint qui va laisser une trace. Voilà. Donc, il y a les SMS qui traînent.
C'est toujours quelque chose qu'on apprend par la bande, en fait. C'est souvent, en tout cas, comme ça que...
Oui, c'est très rare que ce soit dit frontalement. Par contre, le conjoint peut, au début, mettre des œillères en disant « Non, mais ça ne doit pas être vrai », etc. Parce que c'est très compliqué d'accepter que ça puisse se passer. Et puis, au bout d'un moment, ça devient tellement énorme qu'il n'y a plus d'autres moyens que de dire « Bon, écoute, maintenant, ça suffit, dis-moi la vérité, qu'est-ce qui se passe ?» Et là, c'est un sentiment de trahison extrême, d'humiliation, parce qu'il y a eu un mensonge. Voilà, la tromperie, elle est là, c'est qu'il y a un mensonge qui s'est installé dans la relation de couple et que ce mensonge est en inadéquation totale avec le projet de couple à la base, d'exclusivité. Donc la confiance, elle est totalement rompue.
De fidélité, vous rappelez dans votre livre que fidélité, ça vient du mot fides, c'est du latin, hein, ce qui veut dire avoir foi. Voilà, c'est dire si la confiance, en fait, est fondamentale. Au regard de votre expérience de thérapeute, il ne s'agit pas d'être voyeur, mais peut-être aussi quand on est... d'abord, quand on le vit soi-même, ça pourra aider ceux qui ont vécu cette épreuve ou qui la vivent, ou quand on a des proches qui sont confrontés à ça. Dans quel état d'esprit on est d'un côté et de l'autre, en fait? C'est quand on est, j'ai envie de dire... Je sais pas si c'est comme ça, agresseur ou victime, je sais pas si le mot est très mal choisi, mais...
Ouais. Je tiens à dire que même ceux qui sont infidèles ont une souffrance. Voilà, la souffrance, elle n'est pas que d'un côté, elle est des deux. La personne qui est infidèle, elle a souvent une grande culpabilité, elle se sent mal à l'aise parce qu'elle sait qu'elle a fait du mal. Elle peut très bien aussi être en colère vis-à-vis d'elle-même, ne pas se reconnaître en disant « mais comment j'ai pu faire ça, ça ne fait pas partie de mes valeurs ». Il peut y avoir aussi un doute, est-ce qui j'aime ? Un doute même sur soi, hein, est-ce que je m'aime suffisamment, etc. Donc c'est pas si simple que ça. Pour la personne qui subit l'infidélité, hein, qu'elle n'a pas choisi cette situation, ben, il y a tout d'un coup une perte d'estime de soi très forte, une image de soi qui est atteinte. Il y a une perte de confiance, une grande colère, vraiment une colère très très forte face à la trahison. Il y a quelquefois un désir de fuir, de tout casser, ou de se murer, au contraire, de ne plus rien dire. En tout cas, voilà, il y a des réactions émotionnelles qui sont très fortes, voilà, et ça peut aller jusqu'à la dépression, hein, chez certaines personnes. Voilà. Donc c'est vrai que sur l'instant, pendant les premiers jours, c'est très compliqué, et il peut même avoir le désir, allez, on casse tout, c'est fini, tu t'en vas de la maison, moi je m'en vais, etc. Bon, ça c'est les premières réactions. Après, il y a besoin de beaucoup de temps, et ça j'insiste beaucoup là-dessus, on ne tourne pas la page d'une infidélité en 2-3 mois. Le couple a besoin de comprendre ce qui s'est passé et a besoin de voir comment il va s'en sortir, dépasser cette épreuve. Puisque, je le répète, il y a une confiance qui est complètement cassée et la confiance, elle ne se reconstruit pas comme ça. Il faut des preuves. Donc, les deux ont des pas à faire. Et la personne qui a vécu l'infidélité, elle a à entendre aussi ce qui, chez le conjoint, a poussé à cette infidélité quelquefois dans la relation de couple. Donc, il y a une remise en cause des deux qui a à se faire derrière.
Est-ce qu'il y a une manière, je ne sais pas, féminine et masculine de réagir en pareille circonstance et...
Oui, alors, parce que les peurs ne sont pas les mêmes à la base et la manière de réagir n'est pas la même. Une femme est plus sensible à l'infidélité affective que sexuelle. C'est-à-dire qu'elle se dit, mais qu'est-ce que cette femme a de plus que moi ? Pourquoi tu étais mieux avec elle ? Donc là, on est dans le sens de la relation. Cette femme a été ta confidente, cette femme, tu as eu du plaisir avec elle à aller au cinéma, à partir en week-end, etc. Et tu ne le faisais pas avec moi, pourquoi ? Et après, bien sûr, il y a le côté sexuel, où là, la femme souvent se sent salie. Pour l'homme, c'est plus le côté sexuel, c'est, tu as été dans son lit, cet homme a réussi à te prendre, il est venu chasser un peu sur le territoire, quoi. Qu'est-ce qu'il a de plus que moi ? Est-ce qu'il a été meilleur ? Voilà. Et le côté relationnel vient après.
J'avais entendu dire, mais j'ai pas fait vos études, ni j'ai pas votre pratique, hein, mais je crois pas que c'était dans un magazine féminin, que l'infidélité, je sais pas si c'est pas malvenu de dire ça, mais que l'infidélité féminine est souvent plus grave, en fait, que l'infidélité masculine, parce qu'elle signe, en général, un chemin affectif beaucoup plus profond, oui. Une séparation beaucoup plus profonde d'avec l'autre conjoint. Est-ce que c'est votre expérience et est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi ?
Oui, une femme, quand elle est infidèle, alors à moins, je vous dis que ce soit une expérience d'une fois, comme ça, mais quand elle commence à lier une relation avec un autre homme, elle est très vite tiraillée et elle ne peut pas tenir dans cette situation-là. C'est très rare qu'une femme soit infidèle longtemps dans le temps. Elle finira par faire un choix entre les deux hommes. Alors qu'un homme peut tenir dans une double relation très 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 longtemps.
Est-ce que l'infidélité...
Il compartimente très facilement.
Est-ce à dire aussi que le sens de ma question c'était est-ce que l'infidélité féminine n'est pas le fruit d'un processus beaucoup plus profond ou beaucoup
oui,
plus...
Oui, la femme n'est pas infidèle, elle réfléchit davantage. C'est-à-dire qu'elle commence à être tellement insatisfaite avec son conjoint, c'est-à-dire qu'elle a un manque relationnel tellement fort qu'elle a besoin d'être rassurée, de se sentir vraiment enveloppée par un autre homme. Et c'est là que ça touche plus profondément sur le côté affectif et relationnel. Et c'est pour ça qu'elle ne peut pas tenir dans le temps comme ça. Parce qu'elle-même, elle ne se sent pas bien à être entre ces deux relations-là. Et elle va écouter beaucoup ce que son cœur ressent.
Alors, quand on a fait face à cette vérité, comment on fait pour retisser je sais pas, c'est quoi les premières pierres à poser avant de parler peut-être de donner des conseils plus profonds.
Alors, la première chose que je dirais, c'est justement d'arriver à prendre un peu de recul par rapport à la phase émotionnelle. Parce que dans cette phase-là, on a tendance à appeler ses meilleurs copains, appeler ses parents, appeler ses frères et sœurs. « Il m'a trompé, elle m'a trompé, c'est l'horreur, etc. » C'est pas toujours le bon moment pour avertir tout le monde. et encore moins les enfants. Voilà, il peut y avoir un besoin, on peut en parler à une personne, voilà, de confiance. Bien sûr, on a besoin de parler, hein. On ne peut pas rester forcément avec ça tout seul, mais voilà, de ne pas ameuter tout le monde. Et ensuite...
De confiance et digne de confiance.
Exactement.
C'est quand même important peut-être à préciser, parce qu'on peut en parler aussi à quelqu'un qui va vous donner des mauvais conseils, non ?
Oui, en tout cas, qui aura une écoute respectueuse et bienveillante. Voilà. Parce que le but, ce n'est pas non plus d'en parler à quelqu'un qui va vous démonter le conjoint, hein, parce que ça, c'est une atteinte aussi au couple qui souvent fait plus de mal que de bien. Donc, non, c'est vraiment prendre du temps pour prendre du recul par rapport à cette phase émotionnelle. Et ensuite, pouvoir reparler avec son conjoint et dire maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà. Est-ce que tu as envie qu'on dépasse cette situation ou pas ? Parce que avant d'aller voir quelqu'un, il faut que les deux conjoints en aient la volonté. Un thérapeute, un prêtre ne pourra rien faire si les deux n'ont pas la volonté de parler de la situation et de la dépasser. Ça, c'est évident. Donc, une fois que les deux conjoints ont pu se dire, vraiment l'un face à l'autre, oui, je souhaite faire un travail avec toi, à ce moment-là, il y a besoin d'un tiers.
Mais qu'est-ce qui peut aider à reprendre cette décision ? Je sais pas, est-ce qu'il faut justement, après avoir eu cette précaution de pas s'étaler et de pas trop en parler, de savoir garder une certaine réserve, je sais pas, se mettre tous les deux en arrêt maladie et puis partir marcher pendant 15 jours ensemble
ou... C'est pas le moment. Le couple, alors certains me disent, on va partir en couple tous les deux un week-end, c'est pas le moment du tout. Pas le moment du tout. Parce qu'il y a eu trop de... Là, il y a vraiment des choses qui sont à très, très abîmées. Donc, on ne peut pas faire semblant d'eux. Ce n'est pas possible. Alors, il peut y avoir une reprise de la sexualité, comme il n'y en avait pas depuis très longtemps. Il peut y avoir, voilà, parce qu'il y a peur de perdre l'autre, parce qu'il y a « mais je suis là, t'inquiète pas », etc. Bon, voilà. Il peut y avoir une très bonne communication qui revient tout d'un coup. Dans l'épreuve, tout d'un coup, on se met à arriver à se parler. C'est extraordinaire. Donc, tant mieux. N'empêche que plus vite on voit quelqu'un, mieux c'est. Parce qu'il y a quand même des choses qui ont été très abîmées et le couple seul ne peut pas y arriver. Parce que souvent, les causes de cette infidélité, le couple lui-même ne peut pas les voir encore. Ils sont trop le nez dans le guidon et il y a besoin de prendre un peu de hauteur. Et c'est un tiers qui les aidera à faire ça.
Donc, la manière d'arriver à se décider, c'est en partie de décider d'aller voir un tiers ?
Oui.
Et comment est-ce qu'on choisit son tiers, ce tiers ? Vous avez un tableau que, dans votre bouquin, page 116, qui consulter ? Donc vous faites une liste, psychologue, psychanalyste, etc., psychopraticien, enfin vous donnez quelque part un peu la spécialité de chacun. Alors il faut acheter le bouquin, tout simplement. Mais vous renvoyez en tout cas en général vers un professionnel, vers un thérapeute.
Oui, un thérapeute parce qu'on est sur quelque chose, enfin on est sur une situation qui touche à la personne. Alors, il y a le côté psychologique et il y a le côté relationnel. On est dans un couple. Il n'y a pas qu'une personne seule, il y a deux personnes et une relation qui ont été abîmées, les trois. Et donc là, il y a besoin vraiment d'un thérapeute qui a la compétence de pouvoir accompagner cette situation en tenant compte de tous ces paramètres-là. Donc c'est vrai que j'encourage à aller voir des thérapeutes qui connaissent la relation conjugale et qui peuvent l'accompagner.
Il y a une forme de certification nationale sur ces sujets parce qu'on a aussi coutume de dire ou de lire qu'il y a un peu à boire et à manger aussi sur ce marché des thérapeutes.
Bien sûr,
alors
c'est sûr que j'ai entendu des couples qui venaient me dire « Oui, ben moi j'ai rencontré un psychologue qui m'encourageait presque à l'infidélité parce que ça allait me faire du bien ». D'accord, ça existe, mais enfin bon, c'est pas non plus hyper répandu. Il y a aussi un choix du couple, c'est-à-dire que soit le couple est chrétien et veut absolument rencontrer un thérapeute qui est chrétien, donc là il y a le bouche à oreille, et puis il y a des listes qui existent au niveau de la pastorale familiale par exemple, hein. Voilà. Les prêtres ont des réseaux aussi, et sinon voilà, c'est de prendre des renseignements sur des thérapeutes ou des médecins qui ont déjà accompagné des collègues ou des amis et qui en ont été contents.
Parmi les pièges à éviter, qu'est-ce que vous nous citeriez comme piège ? Vous avez dit, donc on a déjà parlé du choix du thérapeute, de l'aidant, peut-être de la place de la famille et des amis, vous pouvez peut-être en reparler. Qu'est-ce qu'il y a comme chose trappe à éviter quand on est dans une période de tempête comme ça ?
Alors, c'est de mêler trop les amis justement à ça. Et puis de trop mêler la famille aussi. Parce que la famille peut être... très bienveillante, avec un bon recul, et voilà. Mais il y a aussi des familles qui vont en profiter pour dire « je te l'avais dit, fallait pas te marier avec ». Voilà. Donc là, ça vient faire mal, ça rajoute. Certains frères et sœurs peuvent avoir aussi ce comportement-là. Mais il peut y avoir des frères et sœurs qui vont essayer de jouer les intermédiaires de manière la plus délicate possible. Ce n'est pas forcément toujours très facile à faire. Ensuite, le plus grand piège, ce serait d'en parler aux enfants. Parce que là, ça atteint l'image du père ou de la mère en plus, quel que soit l'âge des enfants. Et puis, un autre piège...
Donc, vous préconisez de ne pas en parler aux enfants.
Voilà, les enfants vont sentir qu'il y a une crise. Hein, c'est pas la peine de faire semblant. Ils savent que là, ça va pas. Mais leur donner la raison, c'est peut-être pas utile. Voilà. Sauf si le conjoint qui a été infidèle, quelquefois en douce, a déjà présenté la personne aux enfants, soit est dans la décision de partir. Donc là, à un moment donné, il faudra le dire aux enfants.
Alors après, dans votre livre, vous expliquez, vous détaillez pas en fait ce chemin de reconstruction, hein, vous dites un peu toutes les pierres qu'il y a sur le chemin, il n'y a pas une espèce de méthodologie type. Hein. Mais je vais revenir à la première partie, quand vous dites en fait ce qui fonde profondément un couple et ce qui l'aide à se nourrir. Vous avez un passage sur la tendresse. Le titre de ce passage, c'est « La tendresse fait exister ». Pour ceux qui suivent un petit peu le pape François, c'est quelque chose dont il parle souvent. Il parle de la tendresse de Dieu et il dit et redit l'importance de la tendresse dans la vie de couple. Vous dites la chose suivante. « Elle est ce qui, au quotidien, entretient la relation et qui lui donne sa consistance, sa rondeur, sa beauté. La tendresse fait exister l'autre. » Je sais pas, est-ce que c'est un des premiers remèdes ou en fait c'est le remède le plus difficile quand on est en situation de crise ?
Alors, c'est un des premiers remèdes et en même temps, il est essentiel et en même temps, en effet, difficile à poser puisque on se sent atteint dans son propre corps aussi quand il y a une infidélité sexuelle. Donc la tendresse n'est pas toujours facile, mais en même temps, c'est le premier langage qui permet de dire à l'autre « Tu existes toujours pour moi, je suis toujours là pour toi ».
On va faire une deuxième pause et puis après, on va finir cette émission en parlant du pardon, sujet bien délicat. Je rappelle le titre de votre ouvrage « Infidélité et crise conjugale » paru aux éditions Odile Jacob.
Thank you.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Voilà, ce Vivant Église ce matin, donc sur le sujet de l'infidélité en couple, avec, si vous nous prenez en cours de route, Marie-Aude Binet, auteure de Infidélité et crise conjugale, comprendre et sortir de la crise, paru aux éditions Odile Jacob. On va finir cette émission en parlant du pardon. Vous en parlez vous-même dans votre livre. Peut-être en préambule, pouvez-vous dire que, je ne sais pas si vous vous revendiquez comme thérapeute chrétien ou si ça a un sens, mais qu'en tout cas vous intervenez souvent dans des cadres ecclésiaux. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ?
Oui, alors j'interviens au séminaire de Toulouse en sexologie et aussi donc sur le début du cycle, les premiers cycles, et puis ensuite au niveau de l'année diaconale sur la relation femme-prêtre. Et je suis déjà intervenue dans des communautés religieuses justement par rapport aux accompagnements des religieux auprès de femmes. Voilà. Donc c'est une question qui bien sûr traverse, qui va au-delà du couple, hein, de parler de l'infidélité, parce qu'on est sur une infidélité à sa vocation en fait, aussi en tant que chrétien. Donc lorsque l'on est marié ou lorsque l'on est prêtre ou religieux, on est aussi sur cette question de la fidélité à sa vocation et à sa foi et je dirais même à son baptême.
Alors le pardon, vous en parlez, c'est au début du chapitre 6. Vivre le pardon, la réconciliation. Et puis vous citez Madame de Lafayette en introduction de ce chapitre. On pardonne les infidélités, mais on ne les oublie pas. C'est pareil. Est-ce qu'il y a c'est un passage indispensable. On peut pas avancer si on ne se pardonne pas. Et est-ce qu'il y a une méthodologie dans le pardon ?
Vous disiez tout à l'heure, on terminait la deuxième partie sur la tendresse. La tendresse va permettre au lien conjugal de continuer, mais pour que ce lien conjugal soit guéri, il y a besoin du pardon. Quand on pardonner, ce n'est pas oublier, mais c'est redonner son amour à l'autre en disant « Ok, il y a eu une erreur, ok, il y a eu une blessure, je crois toujours en toi. » Et c'est vraiment un acte d'amour. C'est un acte de don de soi et d'accepter que l'autre se redonne aussi à soi. C'est dans les deux sens. Hein. On accepte que ce don et cette réception se remettent en place réellement, concrètement dans le couple. Et le pardon peut prendre beaucoup de temps. Voilà, pardonner trop vite, hein, c'est illusoire. Et c'est souvent un pardon qui ne sera pas assez profond. Parce que pour pardonner, il faut comprendre d'abord. Et puis c'est nécessaire d'avoir peut-être un pardon vis-à-vis de soi d'abord aussi. Hein. Le nombre de femmes qui viennent me dire « il m'avait mis des alertes, je n'ai pas entendu, je m'en veux, c'est aussi de ma faute, j'aurais dû comprendre, j'aurais dû voir, etc. » Donc le pardon, il est vis-à-vis de soi et vis-à-vis de l'autre. Ensuite, il y a ce pardon, il ne peut être, quelquefois, lorsqu'il y a une séparation quand même, il aura besoin d'être donné, parce que, surtout s'il y a des enfants entre les conjoints, ça permet de revoir l'autre avec respect et d'arrêter de le voir comme un ennemi. Voilà. Parce que c'est aussi un peu comme ça qu'apparaît le conjoint, hein. Tu m'as trahi, donc t'es mon ennemi. Voilà. Ou je suis ton ennemi.
Il y a des gens qui restent toute leur vie dans...
Oui.
Dans ce type d'amertume ?
Oui. Et le pardon, on le sait, hein, la première personne qui souffre d'un manque de pardon, c'est la personne qui n'arrive pas à le donner, puisqu'elle vit tout le temps avec ça. Et en plus, lorsqu'on donne son pardon, on se libère. Et lorsque le lien est toxique, ça permet de se libérer de ce lien toxique. Lorsqu'on ne pardonne pas, on maintient le lien. Et le lien, du coup, d'une manière négative.
Est-ce qu'il y a une méthodologie du pardon ? On a coutume de dire, peut-être pour d'autres sujets, que c'est un chemin, que le principal, c'est de se mettre en chemin et puis après, de faire confiance au temps ou...
Oui, alors, lorsque le couple va décider de rester ensemble, il va y avoir, je dirais, un chemin à double voie. C'est-à-dire que, comme la confiance a été rompue, la personne infidèle aura des preuves à donner, à apporter. Et la personne qui aura vécu cette infidélité, je le dis dans mon livre, aura un chèque en blanc à resigner tous les matins. C'est-à-dire, voilà, je ne sais pas ce qui va se passer, mais je te fais confiance, je réapprends la confiance, même si j'ai peur, même si je suis encore blessée, que ce n'est pas refermé. Après, il faut quand même le dire, une personne qui a déjà été trompée une fois, elle n'oublie pas. Donc elle a toujours, j'appelle ça des antennes, et il y aura toujours un regard particulier sur son conjoint, et si jamais, ou sur quelquefois même sur les autres en général.
Un regard ou une inquiétude ?
il y aura les deux. Il y aura toujours, on ne sait jamais. Voilà. Et ça, on ne pourra jamais l'enlever.
Comme tout grand trauma, j'ai envie
exactement.
De dire. C'est quand vous avez eu un accident de la route, vous ne roulez plus de la même manière. Enfin, je ne sais pas si la
tout
comparaison est très heureuse, mais c'est...
Mmh. Voilà, ça laisse une trace, en tout cas, dans la relation.
J'aimerais qu'on revienne sur la place du spirituel. Alors, pour nous chrétiens, évidemment, dans le pardon, même quand il n'a pas lieu en présence d'un prêtre, comme c'est le cas pour le sacrement de réconciliation, en tout cas chez les catholiques, il y a toujours quelque chose de spirituel, en fait, dans le pardon. Quand je veux dire la place du spirituel, vous avez dit au début de cette émission qu'il y avait certaines personnes qui étaient infidèles parce qu'elles n'arrivaient pas à, comment dire, leur relation de couple n'était pas très ajustée, parce qu'elles n'arrivaient pas à vivre la solitude. Est-ce que un chemin spirituel peut être une occasion d'infidélité, ou est-ce que ça peut être une manière aussi d'apprendre à mieux vivre en couple que de cheminer spirituellement?
Alors, cheminer spirituellement est toujours une ressource importante pour tout chrétien. Voilà. Par contre, si on se plonge trop dans ce chemin seul, oui, il peut y avoir une forme d'infidélité. C'est-à-dire que tout ce qui va empêcher d'être en relation avec son conjoint peut être une source d'infidélité. Voilà. Donc ça, c'est toujours un ajustement. Et c'est vrai que lorsque l'on veut faire un cheminement spirituel, souvent on a un accompagnateur spirituel et qui est là justement pour veiller à ce que la relation de couple reste prioritaire, parce que c'est la vocation de la personne qui s'est mariée.
Alors je précise ma question. Ma question c'était d'abord quant à cette solitude, c'est-à-dire que est-ce que immanquablement un jour dans un couple, en fait, il faut pas apprendre à faire face à cette solitude,
oui,
au risque de ne jamais trouver un équilibre.
Mais en couple on est souvent seul. C'est pas parce qu'on est deux qu'on ne peut pas se sentir seul. L'autre ne peut pas tout comprendre et, comme je le disais tout à l'heure, ne peut pas tout combler. Donc on ressent des moments de solitude en couple. Et puis même j'encourage les personnes à partir seules. C'est bon de savoir partir seul 3 jours, 4 jours, une semaine de temps en temps, sans l'autre, pour se ressourcer, se retrouver face à soi-même et revenir vers l'autre, justement, en ayant vidé un petit peu tout ce qui encombre. Voilà. Donc ça, c'est plutôt sain. Maintenant, je le vois quand je rencontre des jeunes étudiants ou des jeunes professionnels. Si on a eu la chance de pouvoir vivre seul avant d'être en couple, c'est très bien. Voilà, parce qu'au moins on aura appris à gérer sa solitude affective et sa solitude tout court.
Est-ce que on pourrait finir l'émission en parlant un petit peu de résilience? J'imagine que c'était un peu le sous-titre de certains propos que vous avez tenus dans cette dernière partie. Cette fois, vous citez un proverbe arabe, se laver les yeux chaque matin. Qu'est-ce que vous nous diriez sur la résilience et sur cette citation? Il nous reste 2 minutes.
Alors, la résilience, c'est le fait de pouvoir dépasser l'épreuve et de se dire qu'on peut être debout. Debout en ayant un regard positif sur soi, un regard bienveillant vis-à-vis de soi et vis-à-vis de l'autre. Donc ça va au-delà du pardon, c'est-à-dire que j'accepte de vivre et je souhaite vivre au mieux avec tout ce que je suis et en acceptant l'autre tel qu'il est, avec ses ombres et ses lumières.
C'est ça la résilience.
Oui.
Et alors cette citation, pourquoi vous avez choisi cette citation?
Parce que justement, ça veut dire que...
Se laver les yeux tous les matins.
C'est-à-dire
c'est
que,
très beau d'ailleurs. C'est...
Oui, ça veut dire que tous les matins, j'accepte cette nouvelle journée en accueillant ce qui va m'être donné à vivre et en accueillant la personne avec qui je vis. Et en l'aimant telle qu'elle est. Et puis je reviens à cet amour de soi. Hein. On aime l'autre aussi d'abord parce que l'on sait aimer son prochain comme soi-même.
Voilà, Marie-Aude Binet, je rappelle le titre de votre ouvrage, Infidélité et crise conjugale, comprendre et sortir de la crise, paru aux éditions Odile Jacob. Merci beaucoup d'être venu ce matin, vivant de Vivante Église. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.